Avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.
Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au cœur de notre rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 Place de la Madeleine. Vous écoutez d'ailleurs Sud Radio à Avignon sur 95.2 et on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée et responsable avec les coups de cœur et les coups de gueule 2019 de David Cobold. Voilà, on verra si t'es bonne humeur ou pas. Martial Minier qui est parmi nous pour nous parler de son château, l'Argilus du Roi, le vignoble de Brouilly dans le Beaujolais, et puis le Vino Quiz pour gagner un très joli cadeau en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, ils sont là, ils sont trois, Hélène Piau, Philippe Orbach et David Cobold. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors pour commencer, bonjour, bon messieurs, quand même, on se réveille là.
Les dames d'abord.
Oui, oui, mais c'est très bien, gentleman, David Cobold qui a toujours un huitième de sang écossais. Alors pour commencer cette émission Invino Studio Radio, vous retrouvez justement vous, Hélène Piau, chef de rubrique au magazine Régal, avec Stéphane Baye, vigneron au domaine de la Meunerie. Bonjour Stéphane.
Bonjour, alors, bonjour à tous.
Vous êtes basé à Trouillaz dans le Roussillon, certains disent que c'est la plus belle ville du monde, vous en pensez quoi?
c'est vrai. En il n'y a pas grand-chose de plus joli que le département du Roussillon.
Bon, Hélène.
Alors effectivement, les Pyrénées-Orientales qui s'entendent dans l'accent de Stéphane. Stéphane, vous êtes un enfant du pays.
Oui, exactement.
Vous avez créé le domaine en 98, mais vos premières vignes ont lieu en 2014. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous avez fabriqué entre 98 et 2014?
Vous avez dormi?
Exactement. En fait, moi j'ai fait des études agricoles, je suis parti en Bourgogne, c'est là où ma passion est née. Voilà, j'ai vinifié un mercuré chez M. et Mme Proto. Et quand je suis redescendu dans mon cher Roussillon, j'ai voulu m'installer, mais mes parents n'étant pas agriculteurs, c'était pas évident. Donc je me suis fait embaucher sur une exploitation du village et j'ai profilé mon travail sur le terroir de Trouillaz. Et petit à petit, j'ai acheté des parcelles que j'ai plantées. J'ai récupéré quelques vieux grenaches, quelques trésors du département. Et ne pouvant pas faire le vin parce que j'avais pas la possibilité... J'avais pas les locaux, j'avais pas l'espace, j'avais rien. Donc, je me suis développé à travers la coopérative. À savoir que la coopérative, les caves coopératives dans le département du Roussillon étaient, parce que maintenant, il y en a un peu moins, mais en tous les cas, étaient très, très présentes. Et c'est vrai que ça m'a aidé à développer, à construire mon exploitation. Voilà. Et au cours de toute cette installation, de la construction de l'exploitation, j'ai toujours été intéressé au vin, à la vinification. Hein. Donc j'allais ici et là goûter des vins, j'ai dégusté, toujours avec passion et un regard bienveillant sur les personnes qui m'expliquaient leur passion, hein, puisque c'est quand même un métier de passion. Et en 2009, j'ai eu malheureusement un accident de vie qui m'a bloqué pendant un certain temps. Et dès que j'ai pu me remettre sur pied, en fait, je me suis promis de vinifier le plus rapidement possible. Et c'est pour ces raisons-là qu'en fait, en 2014, j'ai poussé, disons, un petit peu le destin à me lancer dans les vinifications.
Dans une ancienne meunerie, alors, c'est ça
Ah oui, le nom, quoi.
Voilà.
Combien d'hectares au total vous avez combien d'hectares, Stéphane?
Aujourd'hui, il y a 18 hectares. 18
ah, c'est grand, hectares. Là, 18 hectares. Et vous en êtes tout en bouteille ou un petit peu de vrac?
Non, parce qu'on enchaîne encore une toute petite partie en coopérative, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la meunerie se développe et on commercialise, disons, un petit peu plus chaque année. Donc, je sors du potentiel de la coopérative pour développer la meunerie, voilà.
Très bien.
Voilà. Mais j'ai encore un tout petit peu en coopé, ouais.
Parmi les vignes que vous avez rachetées, certaines sont très anciennes, je crois.
Oui, il y a des très vieux Carignans qui sont, pour moi, enfin, vraiment des trésors. Hein. C'est presque la gestion de patrimoine. Le Carignan, qui était un cépage qui était énormément décrié chez nous parce que en fait ça faisait beaucoup de vin, c'était des grosses acides,
des gros rendements, vous voulez dire beaucoup de production.
Ouais, des vins assez durs. Et finalement, on s'aperçoit que sur des très vieilles parcelles comme moi centenaire, il y a vraiment un
centenaire carrément. Vous avez carrément des vignes centenaires.
Oui, sur les Carignan, oui, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore.
Et qu'est-ce qu'on a comme rendement, Stéphane, sur une vigne qui a 100 ans?
Ah ben là, on est sur des rendements déjà stabilisés à 25-30 hecto-hectares.
Ben c'est pas si mal, Philippe Orbach, non? Parce
ouais,
que un siècle, je sais pas comment on sera, nous, au niveau du rendement dans un siècle. Hein.
Vous ferez plus 25 hectares et 25 hectolitres, je veux dire.
Non, mais je suis quand même persuadé que sur ces vignes, si on arrive c'est l'autre cas, à les conserver, à les travailler correctement, à lever les secs, à les soigner, je pense qu'elles peuvent être encore transmises. Alors après, est-ce qu'elles dureront autant de temps? Ça, je ne serai pas là pour le voir, mais... En tous les cas, je suis certain qu'elles ne sont pas sur le déclin ou sur la phase de terminale, contrairement aux vignes qu'on plante aujourd'hui.
Et alors Stéphane, justement, une vigne qui a 100 ans, est-ce qu'on la travaille on met de l'engrais, on la soigne, on lui parle, on l'embrasse. Qu'est-ce qu'on fait là? Il y a un traitement particulier ou c'est la même chose pour une vigne qui a 10 ans?
Oui, le travail reste le même. La seule peut-être différence, c'est un soin particulier amené à la taille, parce que l'ensemble de l'exploitation sur les jeunes vignes, c'est des vignes qui sont montées sur espalier, donc en fil de fer, hein, sur palissage. Et ces vieilles vignes, eh ben, c'est des gobelets, hein, c'est des plantations d'époque qui étaient plantées au carré, hein, avec des, c'est-à-dire on part d'un tronc et la vigne s'ouvre pour qu'il y ait une ventilation à l'intérieur et une protection du soleil, hein, en plein été où on a des grosses chaleurs. Donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment maintenir ces vignes ouvertes, sans trop, voilà, avec des tailles courtes, en enlevant un maximum les sels.
Oui, donc il faut les soigner, ces vieilles dames.
Oui,
avant le coup exactement. De cœur d'Hélène Pio, parmi les éléments importants dans le vin, il y a le bouchage des bouteilles. Vous travaillez comment, vous, Stéphane?
Alors moi, je travaille avec Diam, qui est un bouchonnier local. Voilà, c'est du liège qui est broyé et qui est reconstitué en fait en forme de bouchon. Et ça permet une bonne conservation du vin.
Et pas de problème de goût de bouchon encore.
Hélène, zéro problème de goût de bouchon.
Hélène Pio, alors vous avez un coup de cœur peut-être sur la gamme des vins de Stéphane?
Oui, moi j'ai eu un coup de cœur pour la cuvée Réminiscence 2017. Alors j'annonce le prix tout de suite parce que je sais que Alain me pose toujours la question, il a raison. 18 euros, un Syrah Mourvèdre, un nez puissant, vanillé, fruits rouges et noirs, du bois fumé, des châtaignes grillées, des amandes, des noyaux de cerises. Vraiment, c'était hyper riche, hyper ample, très charnu. Beaucoup de monde dans le verre et des tanins étonnamment soyeux pour autant de matière. C'était ça, ce qui était très chouette. 2017.
Ah oui.
Et on avait déjà énormément de plaisir. Alors, il faut un plat qui ait autant de présence que ce vin. Hein. Donc, j'avais pensé à un gibier ou un canard aux cerises. Mais vraiment, c'est d'une ampleur et d'une richesse sans être lourd. On garde beaucoup de fraîcheur. Et ça, c'était. Enfin, voilà, c'est chouette
cœur,
parce
quoi.
Que voilà, souvent, quelquefois, ouais, quand on a autant de matière, on n'a pas beaucoup de fraîcheur. Et là, elle était là.
Et Stéphane, un commentaire sur votre vin?
Oui, la fraîcheur aujourd'hui, nous on a des vins qui sont quand même assez solaires, il faut faire attention justement à ce qu'ils ne soient pas trop. Et la fraîcheur est vraiment aujourd'hui, enfin, en tous les cas à la meunerie, c'est vraiment, on a ce travail hyper, hyper, hyper important pour avoir vraiment de l'attention, des jolis vins, des jolis équilibres. Avec des belles longueurs, voilà, on essaie vraiment d'avoir des tanins. Moi, j'aime
bon, en tout cas, c'est réussi, Stéphane. Bravo. Merci beaucoup, Stéphane Baye. Merci c'est également bien. À vous, Hélène Pio. Invino Sud Radio retrouve David Cobod, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, pour tout nous dire ce qu'il a aimé ou pas trop, ou moyen ou beaucoup en 2019. Bonne année ou pas au niveau de plaisir?
Ben oui, vous allez le voir, Alain. Donc je sais que c'est un peu l'époque où on fait, c'est un peu un marronnier, hein, de faire le bilan de l'année passée, tout en regardant vers l'avenir, faire des vœux pour que les choses aillent mieux, de mieux en mieux.
Oui, mais c'est bien de le faire aussi, David. Hein.
C'est pas mal. Je ne suis pas très bon, je dois l'avouer, à cet exercice.
Eh ben, on vous souhaite le meilleur, voilà.
Mais je me suis plié à la règle et voici le résultat. Alors, j'ai pris une caisse de 6 des bonnes choses et une caisse de 6 des moins bonnes choses. Voilà, comme ça fait une caisse de 12 pour l'ensemble. Symboliquement. Alors, premier point, ce que j'ai le plus aimé, on va être positif d'abord, ce que j'ai le plus aimé dans le monde du vin en 2019, d'abord la poursuite dans l'amélioration globale de la qualité des vins, et particulièrement les vins en provenance de régions moins célèbres, c'est-à-dire que la diversité vraiment joue son rôle. Et ceci est aussi vrai pour les vins abordables, parce qu'on a cité là tout récemment avec Laure Gasparotto les vins de Côte d'Auvergne, par exemple. J'ai goûté des vins de Coteaux Lyonnais, ce sont des régions pas connues. On peut citer aussi Beaujolais, qui a été très décrit à
Muscadet.
Tort. Muscadet, on peut les nommer. Toutes ces régions ont quelque chose à nous dire aujourd'hui et quelque chose de vraiment intéressant. Deuxième point, la volonté de beaucoup de producteurs, et on vient de l'entendre là dans le Roussillon, d'élaborer les vins dont la finesse, la délicatesse, la légèreté, la fraîcheur prennent le pas sur la puissance pure. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où tout était puissance. Plus c'était alcoolique, plus c'était tannique, plus c'était ceci ou cela, mieux c'était. Moi, je n'aime pas ce style de vin, c'est lourd, c'est, voilà. J'aime la légèreté et le toucher suave, voilà. Troisième point, le travail des chercheurs et de quelques producteurs pour trouver, sauver ou créer des variétés résistantes aux maladies et aux pestes. Je pense que c'est un vrai fonds de recherche essentiel pour l'avenir, pour traiter moins, pour traiter mieux, pour avoir des meilleurs vins, pour avoir des vins qui résistent à des conditions parfois extrêmes. Que ça soit des vitis vinifera oubliés et ressuscités, et parfois c'est un processus long, voire des nouvelles hybrides croisées, des cépages dites résistance dont on a parlé à cette antenne il n'y a pas très longtemps. Quatrième bon point, l'approche des jeunes générations de consommateurs. Là, je vais passer du côté des consommateurs, qui sont essentiels, parce que sans consommateurs, il n'y a pas de vin. Et ces consommateurs, je les trouve marqués plus généralement par une grande ouverture d'esprit que leurs aînés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas « je n'aime que le Bourgogne » ou « je n'aime que le Bordeaux » ou « je n'aime que ceci ou cela ». Je goûte et ensuite je dis si j'aime ou pas. Voilà ce que j'aime dans les jeunes consommateurs. Cinquièmement, l'enseignement. J'enseigne le vin, j'adore ça, je souhaite continuer. J'éprouve beaucoup de plaisir à essayer de passer des messages, j'espère d'une manière juste et j'espère d'une manière équilibrée. Et c'est un plaisir d'avoir des élèves qui écoutent et avec qui j'ai des échanges.
Est-ce qu'eux sont heureux de vous avoir comme prof?
Mais ça, il faut leur poser la question.
Bon, d'accord.
Oui, pour 2020, ils veulent changer d'école.
Ils se sont tous barrés. Ouais. Sixièmement, les découvertes dans le vin. Le monde s'est fait de diversité et ce que j'adore par-dessus tout, c'est la diversité du vin et découvrir de nouvelles choses chaque fois, chaque année, chaque mois, chaque semaine, quand j'en ai l'occasion.
Allez, une ou deux choses négatives. Parce
alors maintenant,
plus
les
temps,
choses
David.
Les moins aimées, toutes les formes de sectarisme. Des exemples, il n'y aura pas de Bordeaux sur ma carte de vin. Donc c'est en général des restos, des bistrots destinés aux bobos tendance hipster. ou bien, ce n'est qu'un vin de négoce. C'est complètement con comme remarque parce qu'il y a d'excellents négociants et des très mauvais vignes.
Allez, lâchez-vous David, continuez.
Voilà, donc, ou bien je ne bois que du bio. Pourquoi?
Bon, parce que je suis bio.
Il y a des bonnes choses en bio et des mauvaises choses en bio. Il y a des bonnes choses ailleurs. Deuxièmement, des producteurs ou leurs représentants qui commentent les saveurs d'un vin lorsque je suis en train de le déguster devant eux. J'ai dit, si vous voulez écrire mes notes de dégustation, voici mon carnet.
Ça sent la prune, vous ne trouvez pas?
Quoi?
Ça sent la prune, vous ne trouvez pas? Non, je ne trouve pas.
Non.
Puis je n'aime pas les prunes non plus.
Ensuite, ceux qui disent, avant que vous n'ayez goûté le vin, je suis en bio ou en biodynamie. Voilà, c'est écrit sur l'étiquette.
Et un dernier, David, un dernier?
Le syndrome, plus c'est petit, mieux c'est.
Si, je suis d'accord. Du haut de mon 1m42, les bras levés.
Merci beaucoup, David Cobol.
Mes voeux. Mes voeux pour 2020.
Alors, vite, le vœu.
C'est que la catégorie première augmente et la catégorie deuxième diminue.
Merci beaucoup, David Cobol. Bon vœu. Merci
année.
À tous. Dans un instant, on se retrouve chez le caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec le Vino Quiz.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission publique et délocalisée avec The David Cobold et puis le Vino Quiz, David.
Alors, le principe est toujours le même chaque semaine. Nous vous posons une question, une seule, sur le vin. Et le vainqueur gagne, le vainqueur, parmi les vainqueurs, gagne un très beau cadeau. Ça serait le prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux. La question de ce week-end est... Comment se nomme le domaine de Stéphane Baye? Option A, domaine de la menuiserie. Option B, domaine de la meunerie. Et option C, domaine des trouillasses. Trouillasses.
Voilà. A, B ou C, quoi.
A, B ou C.
C'est
bon,
dans
voilà.
Les Aspres, en pays catalan, oui.
Alors, pour répondre et gagner ce prochain numéro du magazine Planète Vin et Spiritueux, vous vous rendez toute la semaine sur le site Invino Radio, tout attaché, .tv, rubrique Vino Quiz. Et le gagnant sera tiré parmi les bonnes réponses.
Merci beaucoup David Cobol. Invino sur Radio retrouve Hélène Pio, mais en compagnie d'un homme juste très sympa, un cosmologue du vin, on va l'appeler, Martial Vignier. Bonjour Martial.
Bonjour Alain.
Alors
bonjour,
dites-moi, c'est à l'âge de 15 ans, vous êtes envoyé en l'air?
Ça vous regarde pas, cher ami.
Votre passion pour l'aérien, c'est dès 15
oui,
ans.
Je suis rentré dans une école militaire de l'armée de l'air à 15 ans, exactement. Ça, c'est vrai.
C'est autorisé avant l'âge de la majorité?
À l'époque.
On se débrouille entre amis, quoi. Hélène.
Alors, effectivement, Martial est en effet un pro de l'aviation, mais si on le reçoit aujourd'hui, c'est en tant que propriétaire du château L'Argilus du Roi à Saint-Estèphe.
Exact.
En même temps, je suis un peu embêtée parce que j'ai lu dans la revue Aéromag que la viticulture était votre deuxième passion derrière l'aéronautique. Mais c'est possible de préférer l'avion à la vigne?
On n'a pas le droit de boire avant 18 ans, donc il a bien fallu que je commence par quelque chose. On va pas appeler un chat un chat. C'est ma deuxième passion. Elle est née pendant que j'étais déjà dans l'aérien et que je transportais, comme patron de compagnie aérienne de cargo, des centaines de tonnes de Beaujolais sur le Japon, avec des 747.
Et là, on reporte
bonjour
à Georges Dubœuf.
Là où il est, à Georges Dubœuf.
Exactement, c'est vrai. J'ai beaucoup travaillé avec lui, c'était un homme merveilleux. Ouais. Et donc, l'aviation, c'est une chose, elle naît comme une une passion au début, et puis après, elle se travaille comme un pro. Et parallèlement à ça, le vin, c'était ma deuxième passion, mais je la contentais dans la dégustation, partage avec les copains, ou quelques soirées à étudier avec des grands maîtres de chais, comme celui de Léoïde Poifféré, mon ami Francis Dourte à l'époque, qui était un professeur émérite. Et de là, la deuxième passion, c'est de dire, si un jour je pouvais avoir une propriété,
ah
ça
oui,
serait
ça,
merveilleux.
Génial, ça. Voilà. Et pourquoi Bordeaux? Parce qu'il y a plein de régions sympas. C'est très bien Bordeaux aussi, hein. Mais pourquoi Bordeaux?
Alors, tout simplement parce que j'habite, je suis arrivé tout petit dans le Médoc, donc c'est pas Bordeaux.
Donc si vous habitez à Compiègne, vous serez dans les betteraves en Picardie, quoi, c'est ça?
Je suis pas sûr que ce soit ma deuxième passion.
Ah ben, Hélène,
vous avez donc franchi le pas en 2010 en achetant ce domaine de 5 hectares, l'Argilus du Roi, à Saint-Estèphe, un cru bourgeois. Et alors, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Pourquoi l'Argilus du Roi?
Alors, la première réponse, c'est pour trouver une petite propriété dans un terroir comme Saint-Estèphe, qui est une des 5 grandes appellations du coin, déjà, il faut se lever de bonne heure. Il faut avoir de la chance. Ça, c'est la chance que j'ai eue.
En survolant en hélicoptère, on ne voit pas mieux un peu s'il y a des trucs à vendre,
pas,
non?
Pas toujours. Non, d'abord, les trucs à vendre, on ne les survole pas.
Et au contraire, c'est sous le manteau.
Ça sort pas, voilà.
Il faut faire du terrain.
Exactement. À l'époque, il ne faisait même pas 5 hectares, il faisait 3 hectares 5. Il avait été créé par José Bueno, qui était un des vinificateurs de moutons à l'époque, qui avait fait ça comme son jardin, qu'on avait fait un petit hectare, et puis après il en a eu 2. Quand il a eu 2,5 hectares, il a construit un petit bout de chai avec un petit cuvier très sympa, enfin une espèce de maison de poupée du vin. Et moi, je le connaissais depuis le départ. J'ai acheté du vin, je le trouvais très bien. Je participais aux vendanges, on faisait un peu de vinif ensemble. Enfin, on se connaissait bien. Et on avait une particularité, et on a toujours cette particularité, on avait chacun qu'un fils. Et donc, on se connaissait très bien. Et un jour, il m'appelle en me disant « Est-ce que tu cherches toujours une propriété à acheter, Martial ?» Alors, je lui dis « oui, mais je veux un petit truc. D'abord, j'ai un autre métier. C'est pas mon premier métier. Donc, je veux un petit truc, quelque chose qui soit à échelle humaine, et puis sympa, et sur un beau terroir. J'ai pas envie d'aller prendre 50 hectares ou 70 hectares dans le Haut-Médoc, je ne saurais pas le faire. » Et il me dit un truc comme l'Argilus, quoi. J'ai dit, ouais, voilà. Il me dit, écoute, si tu veux l'Argilus, je te le vends, parce que je voulais le donner à Sébastien. Il n'en veut pas. Sébastien, c'était son fils, c'est son fils. Il n'en veut pas. Il a autre chose à faire le week-end, m'a-t-il dit. Donc, si tu le veux, tu le prends. Et là...
C'est génial. C'était en quelle année, ça?
2010.
2010.
27 mai 2010. Et là... Toute bêtise commençait étendue entièrement. J'ai dit, mais écoute, je te l'achète, je sors 1 euro, j'y mets, j'ai ça, je te verse les arts et je t'achète la propriété. Et il me dit, bon, ok, top là. Voilà. Et le 2 octobre, j'étais propriétaire.
Ah, ouais.
Jolie histoire. Jolie.
Donc, c'est les emmerdes commencent le 2 octobre, c'est ça?
C'est à peu près ça. Ouais. Alors,
non, le 2 octobre, les vendanges étaient passées, vous aviez cela dit, un an.
On les a fait ensemble. On les a fait ensemble.
D'accord.
Combien de bouteilles chaque année? 35 000, c'est ça à peu près?
35 000, c'est vraiment quand on fait le rendement, mais c'est très rare parce que vu les méthodes qu'on a. On a mis en place, on ne fait pas le rendement.
Donc, plutôt quoi,
on fait
30 000,
plutôt 30 000, ouais.
30 000 bouteilles. 30 000,
et c'est très bien.
On va rappeler que du rouge. Hein.
Ah oui.
Que du rouge et un seul vin.
Et un seul grand vin.
Pas de deuxième, pas de troisième, pas de rosé.
Non, parce que déjà 30 000 bouteilles sur un grand vin, un seul grand vin, c'est...
C'est pas beaucoup.
C'est une frange commerciale très compliquée aujourd'hui. Quand on voit la dernière lettre du président du CIVB, on s'aperçoit que c'est beaucoup pour certains, c'est pas assez pour d'autres. Enfin, c'est un peu comme le rugby, quoi. On n'a jamais le ballon quand on est prêt à marquer l'essai.
Les ailiers connaissent ça par cœur.
L'âge de la vigne est 35 ans en moyenne.
En moyenne, oui.
Vous commencez à complanter un peu
On complante un petit peu. On est sur...
Complanter, qu'est-ce que c'est, l'aide complanter?
C'est remplacer les pieds morts par des pieds vivants.
Voilà, merci. Et ça s'écrit en un seul mot, Alain.
J'imagine.
C'est pas planter les filles et les garçons côte à côte. Hein.
D'accord, très bien. Non. Merci, David, également.
Voilà. Et alors, ce vin, vendu entre 22 et 24 euros, où est-ce qu'on peut l'acheter?
Pas 24, entre 20 et 22 pour l'instant.
Ah, 20, 22,
24
pardon.
Peut-être un jour pour l'instant.
C'est précis. Hein.
Pour l'instant, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est même un très bon rapport qualité-prix.
Le leitmotiv, alors, c'est vrai, là, je vais avoir un discours de capitaliste libéral. c'est facile quand il n'y a qu'une personne qui vit sur la propriété. On est 3, donc moi j'assure la partie commerciale, la partie direction, etc. Et puis j'ai un directeur technique qui est venu avec moi dès que j'ai acheté le château, qui est un ancien carbonieux de moutons et qui est œnologue aussi, avec qui on partage le truc. Mais en fait, sur la propriété de 5 hectares, il y a un ouvrier qui est polyvalent, qui fait la vigne, qui m'aide au vin, enfin, qui nous aide. Voilà.
Et ça suffit.
Et ça suffit.
Oui.
Donc,
à condition de ne pas être en bio, je précise quand même, parce que en bio, ça demande beaucoup plus de main-d'œuvre.
Le bio à Bordeaux, on pourra en parler, mais c'est quelque chose de très particulier pour moi.
J'ai pas dit que c'était mieux, j'ai juste dit que ça demandait plus de main-d'œuvre.
Pour répondre à la question, ce qu'on a fait en 2010, c'est qu'on a pris vraiment des orientations différentes. C'est-à-dire que On a arrêté les pesticides, les herbicides, on a commencé à travailler les sols, on l'a fait tout doucement, parce que pour remettre 5 hectares, enfin 3 hectares à l'époque, presque 4 et maintenant 5, ben, il faut y aller doucement. Hein, et on est aujourd'hui, non pas dans une agriculture bio, ni biodynamie, on est dans raisonné, c'est-à-dire qu'on traite que les cryptogamiques, ouais. et sur des programmes de protection des cryptogamiques, le restant, c'est naturel. On est même en train d'essayer de passer à la confusion pour les amateurs et les gens qui connaissent.
La confusion sexuelle.
Des petits papillons qui mettent le verre de grappe.
Brigitte Lahaye, c'est un peu plus tard tout à l'heure.
La haie, ça revient beaucoup hein, dans la viticulture.
Il faut
la protéger.
Pour faire on la protège. On l'embrasse d'ailleurs. Merci en tout cas, Martial. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020 là, s'il y a un vœu à formuler, c'est lequel pour vous?
Je ne sais pas, que les météos soient bonnes, parce que c'est quand même la récompense.
Oui, c'est très important.
Tout ça. Et puis que quand la météo est bonne, on peut survoler. Et puis les tonneaux en avion et les tonneaux dans le chais, ça va bien ensemble.
Merci beaucoup, Martial. Merci également à vous, Hélène. Invino Sud Radio retrouve Philippe Forbach, meilleur sommelier du monde, pour nous parler d'un vignoble qui est pas très loin, mais qui est pas très proche, en direction le Beaujolais. Là, hein. Voilà, on y va en avion avec vous, Martial.
C'est
ça y est.
Un peu de l'autre côté, mais du Beaujolais et du Brouilly et du Mont Brouilly et du Côte de Brouilly, puisqu'il y a deux appellations effectivement au pied de cette montagne qui s'appelle le Mont Brouilly et qui culmine quand même à 484 mètres d'altitude.
Alors qu'on n'est pas ça dans le Médoc, hein.
N'est-ce pas?
Ça fait 1200 pieds.
Exactement. Là, il y a quand même de la pente. Mais il y a un équivalent, c'est qu'il y a des alluvions. Il y en a aussi dans le Médoc, hein, qui sont plutôt pyrénéennes là-bas. Et là, ce sont plutôt des alluvions alpines au pied de ce mont. Alors, on a parlé, il n'y a pas très longtemps, dans l'émission des vins volcaniques. Et là, c'est le cas dans le Beaujolais, de façon générale, et sur Brouilly en particulier. C'est une pierre d'origine volcanique. Il y a du magma, il y a des granites, des composés, il y a des schistes, il y a des pierres bleues. C'est une spécificité également de cette appellation Brouilly et Côte de Brouilly. Qui effectivement donne une spécificité particulière au vin de ces deux appellations et qui sont élaborés à partir du gamay noir à jus blanc. On ne produit que des vins rouges dans cette appellation, même s'il y a tendance à faire ces dernières années un petit peu de blanc, non pas dans l'appellation, bien sûr, dans les crus du Beaujolais, mais en appellation Beaujolais tout court, avec le cépage chardonnay. La différence entre les deux, parce que finalement, Brouilly, Côte de Brouilly, on se dit c'est un peu la même chose, etc. Mais non, que nenni, c'est pas du tout la même chose. Dans le Brouilly, c'est le pied de coteau, c'est le sol plutôt alluvionnaire, on a des sables, on a effectivement du granit aussi et d'autres choses. Ça donne des vins plus légers, un peu plus tendres, un peu plus souples. Alors que dès qu'on monte un peu sur les contreforts, avec l'exposition également qui est celle de cette appellation Côte de Brouilly, on a des gammes plus concentrées, des rendements plus réduits, des vins plus denses.
Ça veut dire, Philippe, potentiellement, ça peut vieillir plus longtemps ou ça n'a aucun rapport?
Si, ça, vous avez tout à fait raison dans la pertinence de vos questions, mon cher Alain.
Il est astucieux, Alain Martin, quand même.
C'est les Catalans, ce qu'ils vous disent.
Non, mais c'est ce que les consommateurs se posent et c'est pour ça qu'on leur parle. Effectivement, le Brouilly est beaucoup plus rapidement accessible. On peut quasiment les boire dans l'année qui suit la récolte, pas en primeur, mais pas loin finalement. Alors que le Côte de Brouilly demande quelques années de patience pour effectivement voir l'apogée qu'on évoque aussi autour de cette table de temps en temps, pour pouvoir effectivement en profiter, avoir le vrai fond de ce vin. C'est son potentiel également de conservation. Et d'ailleurs, le Brouilly est un vin, franchement, qui va très bien avec toutes sortes de plats, des poissons, des volailles et autres. Alors que le Côte de Brouilly mérite une viande un peu plus concentrée, une viande rouge plus qu'une viande blanche, des plats qui ont
un peu plus élaborés peut-être également. Exactement. La température de service, parce qu'à une époque, dans les restaurants, notamment de la capitale, on servait un Brouilly à moins 3 degrés.
C'est à peu près ça.
En glaçon.
Alors, on a fait des progrès. Ça progresse, tant mieux. C'est pas terrible non plus. Franchement, j'aime beaucoup le Brouilly à la température de cave, entre 12 et 14 degrés. On a du plaisir, on sort ça de la cave, il y a un peu de fraîcheur, ça monte gentiment en
température. Est-ce que c'est un vin canaille? Parce que parfois vous avez un grand sourire, Philippe Forbach, en disant c'est un vin canaille. Et ça nous en canaille d'ailleurs.
Canaille, ça rime avec cochonaille, et dans le Beaujolais, on sait de quoi on parle.
Et si, voilà. S'il y a un bruit entre deux personnes, est-ce que le Brouilly est fait pour...
Ouh là là. Allez, on termine,
celui
Philippe,
qui a la plus grande cote.
Avec les bons vignerons à ne pas oublier quand on passe dans la région.
Sur l'appellation Brouilly, Robert Perrou, notamment, parmi des grands.
Très bon.
Laurent Martré.
Très bon aussi.
Château de la Chaise, en plus le lieu est juste magique. Dominique Piron, qui fait un bruit qui est pas mal. Le domaine Tivin. Ah oui, HIVIN, qui est bien, ou encore Rué. font partie des jolis producteurs de Brouilly. Pour l'appellation Côte de Brouilly, ben, le domaine de Pierre Bleue, qui est le nom également de cette fameuse pierre particulière, le pavillon de Chavannes, et la famille Pérou également, font un Côte de Brouilly terrible qui s'appelle la fournaise du Pérou, avec un petit jeu de mots sympathique, effectivement, sur cette typicité de vin.
Merci beaucoup, Philippe Orbach. Merci, Hélène, Martial et David. Fin de ce numéro de Invino Sud Radio. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.
Invino, avec unjourunvin.com, le site de vente privée de vin et champagne au meilleur prix.